C'est une découverte un peu affolante pour une perspective théologique, disons, je veux pas dire rationaliste, mais enfin, plus intellectualiste, qui ne sait pas vraiment s'expliquer de quoi elle parle lorsqu'elle parle du Dieu 1 ou du Dieu pas 1, mais sinon par allusion. Okay. Vous avez deviné avec qui je parle. Et qui, par conséquent, tant qu'il n'y aura pas des événements de dévoilement pour faire comprendre expérimentalement de quoi il s'agit, de telle sorte qu'on puisse identifier, la tradition va laisser ouvertes ces deux manières de lire. Je vous dis tout de suite, vous le devinez. Je vais essayer de montrer que c'est le Maharal qui a raison dans ce problème. Mais ça ne veut pas dire que la lecture du Mizrahi serait hérétique. Elle est simplement à un certain niveau d'une conscience théologique qui n'arriverait pas à réaliser, identifier de quoi le Maharal veut parler au nom de Rashi, en disant qu'il y a un stade provisoire qu'on appellera celui de ce monde-ci, où il y a un seul Dieu, unicité. Et ce Dieu qui est seul est un. Et cependant, il est tel pour Israël, alors que sa souveraineté se manifeste de toute autre manière et à travers d'autres noms invoqués pour les nations. Entendez bien, pour les nations idolâtres, la source. Vous voyez pourquoi il faut être toujours extrêmement méticuleux dans la lecture des sources, parce que dès qu'on a changé une lettre, un mot, on est déjà sur un autre vocabulaire. Et laissons de côté, si vous voulez, provisoirement, le problème de la théologie chrétienne, qui a aussi un problème d'unité intérieure du Dieu unique, et d'autre part un problème de médiation, etc. Laissons pour le moment cela de côté. De même façon, on touchera à ce séminaire, puisqu'en principe, il est programmé pour le troisième séminaire de juin. Mais j'ajoute simplement ce que j'essaie d'indiquer dans les soirées d'analyse, et en particulier jeudi soir, c'est que le moderne arrive difficilement à percevoir de quoi le païen parlait lorsqu'il désignait ces médiations monolatriques qu'il invoque par son nom propre, d'un dieu suprême qui se fait prendre pour un dieu de monothéisme qui n'est qu'un dieu de monolatrie. Mais de quoi parlait-il? Et c'est évidemment à cela que cette controverse fait allusion. Tant que nous sommes dans l'incapacité de diagnostiquer, d'expérimenter de quoi il pouvait s'agir, il nous semble que c'est... Alors il risque de nous sembler que c'est une discussion de pure exégèse et de purs érudits. Mais en réalité, ça renvoie à deux expériences radicalement différentes du sens théologique de l'histoire des nations. Et le Réhem semble se ranger dans une école qui n'accepterait de lire Rashi qu'à ce niveau. C'est un problème de langage, un problème de reconnaissance ou de non-reconnaissance. Le Maharal, lui, que je n'ai pas encore lu, qu'on va lire tout à l'heure, affirmera que c'est un problème ontologique, que ce sont des réalités différentes, qui sont providence entre le Dieu 1 et les nations, radicalement différentes de cette médiation qui n'en est pas, qui est le nom véridique et véritable, qui est le nom par excellence, qui lui est providence pour Israël, d'où le Elokeinu expliqué par Rashi dans le verset, le nous du Elokeinu. Donc vous avez raison de poser la question, mais c'est pour indiquer qu'on n'est pas encore arrivé au moment de la réponse. S'il y a une autre question d'élucidation des termes. Bon. Alors, vous allez me rappeler où je suis arrivé.
Vous êtes arrivé là.
Alors, je reprends Eina Davarken. Mais Eina Davarken, pardon. Oui, je vous écoute.
J'avoue que je n'ai pas très bien compris l'histoire de l'ange qui se dévoile et qui se cache, etc. Là, il y a quelque chose que j'aurais aimé que vous répétiez.
Là, c'était quelque chose de très furtif.
Ben oui, c'est assez difficile à...
Vous m'avez coincé, hein.
Les autres l'ont compris, mais ben, c'est tombé, mais là, il y a quelque chose qui m'a manqué.
Voilà, nous allons avoir à réfléchir à deux formules qui apparemment sont contradictoires. J'ai fait un peu allusion à cela, je ne sais plus quel matin, mais cette semaine. D'une part, nous aurons l'affirmation de la théologie juive classique que le nom de Dieu est inconnaissable, est informulable, et qu'il est inconnaissable, et que, au fond, son nom authentique consiste à ne pas l'invoquer. Puisque dès que nous formulerions une invocation, elle risque d'être fausse et erronée. Et ce n'est pas simplement une question de signification, c'est une question de désignation par le langage d'une réalité qui serait autre de ce dont nous voudrions parler une minute. Mais d'autre part, nous avons une autre affirmation, c'est que nous connaissons le nom de Dieu. Et une petite illustration ne peux pas faire de la théologie des spirotes, il n'est pas là, non. De la théologie de catégorie kabbaliste, mais tout simplement de l'exégèse fondamentale. Le nom de Dieu qui est révélé pour Israël a toute une série d'exposants explicatifs. C'est l'expression Dieu d'Israël, qu'on peut d'ailleurs, c'est son nom, et qu'on peut d'ailleurs, tel que la prophétie hébraïque l'a révélé, et qu'on peut d'ailleurs expliciter un peu plus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et il suffit de comprendre le mot Israël pour savoir qui est le Dieu d'Israël. Il suffit de comprendre le mot Abraham, le mot Isaac, le mot Jacob. Si nous savons qui ils sont, nous savons qui est leur Dieu. C'est pas simple, mais on peut y arriver. Donc il semblerait qu'il y ait une contradiction. D'une part, on affirme le nom de Dieu est inconnaissable. D'autre part, on dit qu'il est connaissable. Bien, c'est le nom qui est connaissable, et non pas lui. Et c'est là que je reviens sur ce petit point que vous avez signalé. C'est un principe tant dans l'enseignement de la Kabbalah que dans l'enseignement du Talmud, que ce qui dévoile cache. Ben, c'est ce que je dis. Or, le nom dévoile l'être, mais en même temps le cache. Il y aurait toute une analyse à faire sur cette expression qui est employée par la Bible, « Je me ferai connaître de toi par mon nom ». Lorsque quelqu'un se fait connaître à moi par son nom, qu'est-ce que je connais de lui? Lorsque je dis son nom, qu'est-ce que son nom désigne? Et vous pensez bien que cette connaissance à travers un nom peut être extrêmement subjective. Pour l'un, ça évoquera sa silhouette. Pour l'autre, ça évoquera la couleur de sa peau, est-ce que je sais? Pour l'autre, ça évoquera la manière dont il a de s'habiller, En hébreu, du point de vue de la catégorie traditionnelle de cette expression, connaître quelqu'un par son nom, je ne sais pas si nous avons déjà fait allusion à cela, c'est connaître la manière qu'il a de vouloir ce qu'il veut. C'est-à-dire, son style de volonté. Puisque le nom dévoile le caractère spécifique de la personne de chacun. Or, d'après la tradition juive, le caractère spécifique de la personne de chacun, c'est son style de vouloir. Lorsqu'il veut ce qu'il veut, voilà comment il le veut. Et si je connais cela de quelqu'un, je le connais. C'est cela que son nom désigne. Il y a toute une série d'équivalences, mais nous n'aurons pas le temps. Je le signale en passant pour les hébraïsants, de Dieu, Baruch Shem Kevod Malchut, le nom de son Kavod. Alors, qu'est-ce que c'est que le Kavod? Le Kavod, c'est le Ratson. C'est son nom chez la dame Kavodo. Et par conséquent, Shem, c'est Ratson. Le nom désigne la manière de vouloir. Alors, les kabbalistes l'ont indiqué comme ça, je vais vous mettre au tableau et après on revient au sujet, que Shmo, son nom, Shem, Shmo, son nom, c'est la même valeur numérique que Ratson, qui signifie le vouloir, la volonté. Ve'aya bayomahu, yi Hashem echad ou Shmo echad. Ve'ahu ou Shmo echad. Shmo, bon. Son nom désigne lui, mais qu'est-ce qu'il désigne de lui? C'est ce que j'ai mis là. Renzono, c'est-à-dire sa relation avec son monde, ce qu'il veut de son monde. C'est ça que j'ai appris de lui, ce qu'il veut du monde. Et c'est par ce nom que je le désigne, mais c'est pas lui que je désigne son nom. Entendu en hébreu, c'est-à-dire ce qu'il dévoile de lui. Et ce qu'il dévoile de lui le cache. C'est pourquoi il y a interdiction de toute représentation. Parce que toute représentation ne peut que cacher. Voilà. Ne croyez pas que c'est difficile, c'est très simple. Seulement, il faut se familiariser. C'est clair? Et alors, nous quittons bien entendu un registre de nomination qui ne serait que conventionnel. Si je connais le véritable nom d'une chose, je connais ses propriétés. C'est le projet de la science. D'établir le véritable nom d'une chose, d'un corps, d'un phénomène. Et lorsque je connais le véritable, par exemple, prenez l'exemple le plus clair, qui est celui de la chimie. Lorsque la chimie établit la formule réelle qui dit le nom d'un corps, et bien c'est à peu près la même chose. Je connais sa volonté, sa manière de fonctionner, ses propriétés.
Mais connaître un nom donnerait un pouvoir sur le nom.
Donnerait. C'est pourquoi les personnes ne donnent son nom. On se donne des noms conventionnels qui sont des surnoms, des autres noms. Parce qu'on se cache derrière un nom conventionnel, parce que livrer le vrai nom, c'est se livrer. On ne donne son nom qu'à son ami. Et est-ce que vous comprenez le... Je me rappelle quand j'avais étudié ça en ethnographie, dans les sociétés primitives, il y avait trois choses qui restaient secrètes. C'était la manière de siffler de chacun, la manière de siffler, le sifflet de chacun, son nom véritable, et une troisième chose, Shacharti.
La date de naissance.
Il y avait autre chose, je ne sais plus. Troisième chose. Peut-être la manière de rire, je ne sais pas. Enfin, quelque chose comme ça. Alors, je crois que chacun a une mélodie. La mélodie de chacun. Un peu comme chez les Hassidim, le chant du rabbi. Le chant du rabbi est caractéristique de telle communauté. Hein. Quand on connaît le chant du rabbi, on connaît les Hassidim de Belz qui sont comme ça, ceux de Kos qui sont comme ça. Et comment on a connu ça? Quand on a compris leur chant. Bon, vous voyez à quel point les modernes sont dévitalisés par rapport aux primitifs, entre guillemets. Hein. Mais pour prendre une chose classique et simple, c'est-à-dire on ne donne pas son vrai nom, c'est ce que vous avez indiqué, on ne donne pas son vrai nom à moins qu'on soit en alliance d'amitié. Et alors on échange les noms comme signe de l'alliance. Or, je dirais une chose, nous avons un passage de la Gemara qui est très important. Ce nom de Dieu, il l'a révélé à Israël, pas seulement avec un mot qui serait objet d'études de théologie, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais dans un très grand livre qui s'appelle la Torah, qui est tout entier le dévoilement de ce qu'il veut de son monde, de son nom pour le monde. Et encore, cette Gemara est à sa trace dans un rite du rituel ashkénaze. Avant de lire la Torah, chez les Ashkenazim, on dit « Kishé Maché Mekra Abu Godé Lelokenu ». Vous connaissez ce verset, les Ashkenazim? Vous n'êtes pas encore assimilés. Et le verset dit « Car je vais lire le nom de Dieu, Kishé Maché Mekra, reconnaissez la grandeur à notre Dieu. » Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire la Torah, qui est tout entier, le nom de Dieu dévoilé. C'est clair? Bon. Mais peut-être qu'il était nécessaire de remettre en évidence, après votre question, c'est ce principe de la tradition juive, mais que vous retrouvez aussi, peut-être sous d'autres formes, dans beaucoup de traditions très anciennes, c'est que ce qui dévoile cache. Par exemple, il y a la parole est un dévoilement de la pensée, mais la parole cache la pensée qu'elle voudrait dévoiler. Et il y a plus dans la parole que dans la pensée, mais il y a quand même beaucoup plus dans la pensée que dans la parole. Et c'est toute la dialectique de la Torah Shebe'ta et de la Torah Shebe'alpeh. Il y a plus dans l'écrit que dans l'oral, mais il y a infiniment plus dans l'oral que dans l'écrit. Et c'est une dialectique permanente. La parole est un tzimtzum de la pensée. Donc le nom, c'est déjà, comment dire, une finitude de l'infini. Et c'est pourquoi le nom lui-même est imprononçable. Alors nous nous servons d'un mot qui signifie le nom et qui désigne une allusion. Par allusion, nous désignons lui. Je voulais signaler ça au début que tous les mots dont les langages humains se servent pour dire Dieu, et je tombe dans le piège puisque je vous dis pour dire Dieu, ne peuvent pas être prononcés parce qu'on ne sait pas ce qu'il désigne. Il s'agit du nom réel, alors c'est un nom saint, on ne le prononce pas en dehors de la liturgie, sinon ça désigne une idole, alors à plus forte raison. Et seulement, ces mots-là sont devenus tellement dévitalisés de notre temps qu'ils n'ont plus aucune importance. Je vous signale par exemple, il y a des gens très pieux, quand ils s'écrivent en français, alors pour dire Dieu, ils mettent un D et un point. Mais c'est un blasphème, parce qu'ils considèrent que le mot Dieu, qui vient du latin et du grec, est un mot sacré. C'est tout le contraire. Vous avez compris? C'est une petite erreur de la pierre.
Et le nom prononcé il y a un petit tour, alors ça donnait.
Et seul le grand prêtre, une fois par an, à Yom Kippour, prononçait le nom explicité, le Shema Mefourash. Okay. Et puis, remarquez encore, ça se fait un peu comme ça dans les synagogues à ce moment-là, tout le monde se prosterne, se coupe de la tête pour pas entendre, je veux pas savoir. Et puis, remarquez ça.
Donc. Un détail, puisque au passage, je connais une dame très savante qui a fait plusieurs livres, hébraïsante, distinguée, je ne prenais pas son nom, rarement qu'on me le demande, qui, dans ses conférences, quand elle dit le nom du Dieu d'Israël, elle dit Yod Evavé. Alors, c'est elle désigne par les quatre lettres, Yod Evavé.
Oui, alors je ne sais pas
que faut-il penser.
Elle est peut-être très hébraïsante, mais peut-être pas très, comment dire, familière à la tradition.
Oui, non, elle
on a l'habitude de dire Yod Kevavke. Parce qu'on ne prononce pas même
c'est
en hébreu.
C'est ça,
Yotke. Ah, c'est Yotke, oui. Chez les Ashkenazis, mais C'est un peu l'habitude qu'on a pris de notre temps, et chez les Sparadim, on disait Yodevavde, Dalatolede. Mais ça vient. C'est une allusion, je veux parler du nom des quatre lettres. Bien. Alors, ça va mieux, là. Alors, on retourne. Ven, ven adabarken, chez Are, Yichudoit Barar, et chez Oum, il va tracer, l'Olamdou Otorazal, et là, Mehaikra. Et je reviens à ce que dit Sikelerem, le principe de son unité, unicité, et le fait que c'est un commandement positif de l'affirmer, nos maîtres ne l'ont appris que de ce verset. Okay? Alors je continue. Et Amrou Razal et nos maîtres ont dit, chez Tsarich le Harir Bedalet, qu'il faut, dans la prononciation du mot Echad, allonger le Dalet, chez l'Echad, du mot Echad, Ad, chez Igmor Bekavanato, jusqu'à ce qu'arriver, qu'il arrive à réaliser dans son intention de lecture, d'invocation, Mahashava, la pensée, chez Hu Echad, qu'il est un, Bashamaim ou Baaret, dans les cieux et sur terre, ou Be'arbar ou Chotar Olam, et dans les quatre dimensions de l'espace. Ça, je vais expliquer ça très rapidement. C'est un enseignement qui se trouve dans la Gemara de Brachot, et qui, que vous trouvez d'ailleurs dans certains Sidurim, on vous le cite avant le Kriyat Shema. Je vais expliquer ça au tableau rapidement. Cette intention de lecture est la suivante. Le mot de Echad est formé de ces trois lettres, Aleph, Ret, Dalet, de prononcer ce mot avec l'intention de penser qu'il est un, Aleph, qu'il est un, Bashamaim ou Baaret. La valeur numérique de Ret, c'est 8. Dans les 7 cieux et sur la terre, ça fait 8. Et la valeur numérique de Dalet, c'est 4, et dans les 4 directions de l'espace. Le Réhem profite de cette intention de lecture, qui est d'ailleurs très connue d'autre part, pour nous dire, il est bien évident, que l'affirmation exhaustive de son unité nous est donnée dans cette Kavana, intention de lecture du Kriyat Shema, puisque l'on doit vous rappeler comment est le geste traditionnel de la prononciation de cette phrase. Au moment où on dit le Kriyat Shema, ça j'expliquerai après, on met la main devant les yeux, d'une certaine manière, je l'expliquerai après, et on prononce le mot de Echad de manière et le temps de réaliser dans son intention de penser qu'il est un dans le ciel et sur la terre et dans les quatre dimensions de l'espace. Un indice de plus que nos maîtres ont vu là, l'affirmation de son unité. Et ce principe est beaucoup plus global, général, absolu, que l'explication justifiée, dirait-il, que nous donne Rashi, que ce verset voudrait nous dire, non, c'est pas si simple que ça, qu'il est ce que ce Dieu un, ainsi entendu, est notre Dieu à nous, déjà et seulement, mais qu'il viendra un jour où il sera un vraiment. Il y a décalage. Comment avons-nous appris qu'il est un point de ce verset, et comment peux-tu dire que c'est à deux niveaux? Doucement, doucement, mais ça va mieux, on progresse. Alors là, il y a ici au fond tout un séminaire à faire. Vous verrez dans la Sidurim qui indique cette Kavana, cette intention de lecture, qu'il faut prononcer le mot de Echad, le temps de le reconnaître comme souverain unique. Bashamaim Baaret, Baava ou Chota Olam. Et qu'il faut accentuer la prononciation du Dalet, mais ne pas esquiver celle du Chet. Des détails très minutieux, mais qui ont des implications théologiques extrêmement importantes. Je signale simplement en passant, c'est que l'affirmation ici, c'est l'affirmation de transcendance, il y a un accent mis sur la transcendance, et l'affirmation ici est celle de l'immanence, il y a une atténuation de l'immanence, mais ne pas risquer de l'oublier. Je vais expliquer un peu plus. Lorsque je dis que Dieu est souverain, avec l'allusion au mythe, les cieux et la terre, c'est-à-dire sur les contenus du monde. C'est l'affirmation d'immanence. Et lorsque je dis qu'il est souverain sur les quatre dimensions de l'espace, c'est sur les coordonnées du monde. C'est l'affirmation de transcendance. Alors on voit que les deux sont affirmés. Alfred, immanence, Alfred, transcendance, Echad, immanence et transcendance. Mais avec accent sur la transcendance, à condition de ne pas risquer l'artof et tachet, c'est-à-dire d'avaler l'immanence. Le roi unique, le souverain unique, dans le ciel et sur la terre, et dans les quatre dimensions de l'espace. Vous avez deux moments. Dans le ciel et sur la terre, c'est la Hed. Nous savons que il y a 7 sur une Terre, ça fait 8. Et Dalet, la 4 dimensions de l'espace, c'est le Dalet. Bon. Je veux dire, j'ai illustré un peu ça très rapidement, simplement pour vous indiquer un peu les implications de ce problème. Là, un des principes de cette affirmation d'unité est très important en soi, c'est précisément ce principe de identification entre immanence et transcendance. Un Dieu transcendant et un Dieu immanent, ça renvoie à des théologies très différentes. L'affirmation de l'unité, c'est que l'un, c'est l'autre. Je pense que c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a dans cette affirmation-là? C'est un sujet pour lui-même, mais formellement en tout cas. Or, essayons de comprendre ceci. Dans l'éclatement de ces trois monothéismes, à partir de la tradition juive, le monothéisme musulman d'un côté, le monothéisme chrétien de l'autre, je le dis que très brièvement, tout se passe comme si l'islam va mettre l'accent sur la transcendance de façon telle que l'immanence s'évanouit. Alors que la chrétienté va mettre l'accent sur l'immanence de façon telle que la transcendance s'évanouit. Alors, cette indication de la Gemara reprend une portée extrêmement importante. C'est qu'il faut affirmer l'unité de l'immanence et de la transcendance, mais en mettant l'accent sur la transcendance, mais sans risquer d'évanouir l'immanence. C'est une option théologique difficile, très fine, mais très précise, et qui est celle de la tradition. Ce qui fait que, bien que nous nous comprenons de loin, lorsqu'un musulman parle de transcendance divine, nous savons de quoi il parle, c'est pas exactement la nôtre. Et nous comprenons de loin, quand un chrétien parle de l'immanence divine, nous comprenons de quoi il parle, c'est pas exactement la nôtre. Vous avez compris comment ça s'éclate. Bien. Alors en tout cas, le Réhem, en passant, a signalé cela. Ça va jusqu'à ce détail-là, que dans le rite même, l'affirmation de l'unité, elle est déjà là. Comment toi, Rachid, et nous savons que tu devais le dire, mais comment toi, Rachid, peux-tu dire que c'est à deux niveaux, que pour le moment ça concerne qu'Israël, et qu'un jour ça sera comme ça. Mais nos maîtres nous ont dit que c'est déjà comme ça. Bon. C'est clair? Je peux continuer? Je ne sais pas où j'ai vu là. Ah, voilà maintenant l'explication que nous propose le Réhem, le schéma et Shlomar. Alors peut-être on peut dire, schéma et Shlomar, des Lokenu, des Kra, ou des Kadarish, que Rashi veut expliquer le mot Elokenu de notre verset. Que c'est le mot Elokenu de notre verset qu'il veut expliquer. Et avaler les Mirtav, parce que le verset aurait dû porter Shema Israël, écoute Israël, Hashem Echad, Hashem est un. Si le verset était écrit ainsi, Shema Israël, Hashem Echad, il n'y aurait pas de problème. Or, c'est pas comme ça que le verset est, puisqu'il y a Hashem Elokenu. Alors, il faut expliquer ce Elokenu. Est-ce que vous remarquez finement que le Réhem nous avait déjà dit tout ça, et que c'était le point de départ de son problème? Il dit peut-être que c'est ça la solution. Bon, je referme la parenthèse. Oh, Hashem Elokim Echad. Maï Elokenu. Qu'est-ce que ça veut dire notre Dieu? Qu'est-ce que ce notre vient nous enseigner? L'Omar Lecha, c'est pour te dire. Chez Hashem, chez où? Achav Eloka Shelanu. Que Hashem qui est maintenant le Dieu de nous. Bilbat, seulement. Vélo, les Shéar ou Mot, et pas, c'est moi qui ajoute encore, mais pas celui des autres nations. Yavozman arrivera un temps chez Iye et Loka, l'école à la Oumot, où il sera, faites attention, vous avez une faute d'orthographe dans ce mot-là, ajoutez un Yud, ok? Chez Iye et pas chez Aya, ok? Il arrivera un temps où il sera, Eloka, l'école à la Oumot, Dieu de toutes les nations, Veaz, Iye Hashem Echad, les Koulam. Et alors, il sera un pour tous. Aval leur l'âme. Mais dans tous les cas, Ikar Ichudo Itbarach, Me'acha Nafka. Dans tous les cas, l'idée qu'il est un, c'est de ce verset que nous l'apprenons. Ou Kéilou Amar, et c'est comme s'il avait dit Shema Israël, écoute Israël, She'archav Ilbad Hashem Elokenu, que maintenant seulement Hashem est notre Dieu, Velo Lishara Umot, et pas aux autres peuples, nations. Aval Yabozman, mais viendra un temps chez Yodoubo, qu'ils le reconnaîtront. Soulignez ce Yodoubo. Voilà comment le Réhem veut nous en sortir. bien, il arrivera un temps qui vous le reconnaîtront. Et alors, c'est ça que ça veut dire, il sera. Le Marol va dire, non, c'est deux choses différentes. Ils le reconnaissent, mais il sera. Vous y êtes? Bon. Alors, soulignez ce yod, vous, kola ou mot, veillons vous, Hachem Echad. Et ils diront, non, attendez, j'ai mal lu. Oui. Et ils diront, Hachem 1, Sheen ke Yehudo, et il n'y a rien qui ressemble à son unité. Echad mina achadim, un parmi tous les uns. Vehu, Echad vachamay ou baaretz, et il est un dans le ciel et sur la terre. Ou barba ou chota aolam, et dans les quatre dimensions de l'esprit. C'est-à-dire, vous voyez très bien que le Réhem a posé le problème. La difficulté de la lecture de Rashi, c'est qu'il y aurait un temps de ce monde-ci où Dieu n'est un que pour Israël, et qu'il arrivera un temps où il sera un pour l'humanité entière. Mais étant donné que Rashi avait cité deux versets, un verset qui parle d'un problème d'invocation par le langage, un verset qui parle de la disparition de ces noms provisoires, et que c'est le nom unique informulable, il n'y a pas de médiation pour lui, celui-là, qui jusque-là est né que pour Israël, qui sera aussi pour toutes les nations, c'est le deuxième verset. Et le Réhem semble nous inviter à comprendre le problème, à ne pas lui donner de solution, et à se rabattre sur le problème linguistique et d'invocation par le langage. Est-ce que c'est clair? Je crois que pour expliquer cela, il faut comprendre que, inévitablement, lorsqu'une tradition est devenue la tradition d'une prophétie antérieure, deux lignées apparaissent toujours. La lignée exotérique, qui transmet l'orthodoxie, l'orthologie de cette tradition, mais sans forcément savoir identifier ce que les mots désignent. Et la lignée ésotérique, qui elle identifie ce que les termes désignent. Alors le Réhem a enseigné pour la première ligne, mais en donnant suffisamment d'indications à la deuxième pour nous indiquer furtivement qui sait de quoi les autres parlent. Est-ce que vous... Mais j'ajoutais un peu, peut-être à un niveau, disons, pédagogique, c'est qu'il y a une sorte de crainte d'envisager le problème tel que le pshat de Rashi va mener le Maharal à l'envisager, qu'effectivement, il y a des médiations différentes et que ce n'est pas seulement une question purement de vocabulaire ou de linguistique. C'est un peu ce à quoi j'ai fait allusion jeudi soir, je pense, en vous parlant des mythes qui, tant qu'ils sont vivants, sont vivants. Ne croyez pas qu'un mythe, c'est uniquement un mot et qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas parler et qui a dit un mot faux et que c'est un problème d'exégèse. Non, ce mot qu'il a employé désigne un mythe qui est vivant, qui est réel. Et tant que le mythe est vivant, ce mot désigne un mythe qui est vivant, une idole, mamache. Et peut-être que les modernes n'arrivent pas d'emblée à identifier cela, peut-être par une sorte de réaction de défense. Surtout, ne nous parlez pas de ces choses-là, parce que, qu'à Dieu ne plaise qu'elles existent, parce que si elles existaient, vous comprenez? Et donc se rabattre à un problème de vocabulaire. J'avais indiqué aussi dans les analyses du soir que c'est un peu de chutzpah vis-à-vis des hommes de l'Antiquité, de croire qu'ils étaient géniaux en tout, mais dès qu'ils parlaient l'essentiel, ils disaient des bêtises. Ils savaient, eux, de quoi ils parlaient, c'est nous, les modernes, qui ne savons pas identifier. Je parle des païens, pour le moment. Okay. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Je voulais simplement vous demander, dans cette conception-là, est-ce que ça ne voudrait pas dire alors que le paganisme, l'idolâtrie, tout ça, ce ne sont que des étapes, et que c'est un pas vers le monothéisme?
Là, je crois que la différenciation n'est pas dans le temps. Elle est au niveau de la différence des nations. Ce n'est pas des étapes, c'est la manière d'être de telle ou telle manière d'être homme, à qui correspond telle ou telle médiation. Et lorsque cette manière d'être s'authentifie, alors cette médiation s'évanouit. C'est pas qu'il y a un temps où elle est là, un temps où elle disparaît. Ça dépend pas d'une évolution dans le temps. Ça dépend d'une identification au niveau ethnique, au niveau des ethnies dans le sens culturel. Et je vais vous dire, la plupart du temps, c'est une formule un peu comme ça, ne prenez pas ça à la lettre. La plupart du temps, la manière pour les modernes d'être monothéistes, c'est d'être athées. C'est le fond des choses. Et je crois que c'est la porte à l'analyse qui suit. Je crois que, à votre question, j'ajouterai une précision. Dans ces textes-là, il faut faire une différence entre ce qui concerne l'être collectif de chaque manière d'être homme, qu'on appelle les umot, les nations, chacune d'entre elles, avec sa carte d'identité culturelle et ethnique, et les individus. Est-ce que c'est clair? Il y a une différence. L'individu de n'importe quelle nation peut accéder à l'expérience monothéiste hébraïque. Mais l'identité collective, globale, de telle ou telle manière d'être, d'être homme, elle, c'est autre chose, différent. C'est de là qu'il est parlé, c'est de ça qu'il est parlé.
Mais après l'exposé de l'histoire, on avait l'impression que c'était assez clair quand même, la différence entre le monothéisme et paganisme. Là, peut-être, d'après ce petit dessin, ça l'est moins.
Vous pouvez garder votre manière d'expliquer que vous avez cité tout à l'heure. Vous pouvez le garder. Mais je ne crois pas que, que d'après ces textes-là, ces sources-là, ça viendra d'une espèce d'épuration que les nations feraient elles-mêmes dans leur propre culture. Et nous allons voir le Maharal maintenant. Mais déjà, au niveau du Réhem, c'est Dieu qui va faire ça. Parce que il faut une transmutation de l'identité chez les nations pour que ça arrive. Je verserai une langue épurée. En ce jour-là, ça sera comme ça. Ça ne vient pas de l'évolution religieuse des goïms. Ça vient de l'histoire du monde.
Mais c'est précisément... C'est...
Entendez ça au moins à l'échelle collective, comme j'ai dit tout à l'heure. À l'échelle individuelle, bien sûr, l'initiative de chacun, quelle que soit son origine, fait que il peut s'authentifier par rapport au divin. Mais c'est à l'échelle individuelle. À l'échelle collective, tant que les manières d'être homme sont ce qu'elles sont, elles sont ce qu'elles sont. Donc il arrivera un événement, nous disent ces textes, d'une portée messianique beaucoup plus considérable, qui fera que ces écrans, ces prismes, qui s'appellent les Umot, à l'échelle collective, disparaîtront. Mais ce n'est pas l'évolution de l'histoire qui fait ça. C'est une intervention du Créateur. C'est là que c'est un peu plus compliqué, si vous voulez, que je ne veux pas trop y faire allusion. Je vais donner un tout petit exemple. Vous vous rappelez de ce texte du combat de Jacob avec l'ange? Bon. Alors, ou bien c'est une historiette, ou bien c'est une légende, comme disent les modernes, ou bien c'est une réalité. Et donc, il y a une réalité avec laquelle Jacob s'est colleté. C'est clair. Et d'autant plus que quand il s'est réveillé de sa nuit, il boitait vraiment. Ah, vous allez me dire, mais les psychologues expliquent qu'on peut avoir des rêves et on se lève en boitant. C'est vrai, et peut-être que c'est relié, mais c'est un autre problème. De toutes les façons, je veux dire, ou bien, nous croyons la Bible quand elle dit que Dieu est un. Alors il faut la croire aussi quand elle parle des anges, puisque c'est la même Bible. Ou bien c'est que nous ne comprenons pas qu'est-ce que c'est des anges, et peut-être on ne comprend pas non plus qu'est-ce que c'est Dieu. Et donc c'est à ce niveau de sérieux qu'il faut rencontrer ces textes. Or la tradition nous dit que Jacob a eu à se colleter dans sa nuit individuelle, mais en préfiguration de ce que sera l'histoire de sa descendance, avec le génie céleste de la civilisation romaine. Ésaü. Bon. Alors de toute façon, bien ce génie existe, mais il n'existe pas. Alors, à l'école du Réhem, c'est-à-dire intellectualiste de type rationalisant, c'est pas ce que le Réhem était, mais dans sa formulation, on dirait, mais c'est une manière de parler. Bien sûr qu'il n'y a pas une réalité qui s'appelle le génie romain avec laquelle le peuple juif a à se colter. C'est une manière de parler. Alors que le Maharal va nous dire, non, ce sont des réalités réelles. Seulement, peut-être nous ne savons pas les identifier dans notre langage du niveau de modernité auquel nous avons accédé. Je signale d'ailleurs que, en particulier, Krochmal, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le guide des égarés de la génération », Moren Bucherzman, a beaucoup parlé de ces problèmes, c'est que chaque nation a son génie propre, et que ce n'est pas simplement une figure de style. C'est Nathan Krochmal. Ce n'est pas une figure de style. Le génie de Rome, ça existe. Et ce combat-là existe. Et qu'est-ce que ça veut dire être blessé à la hanche dans ce combat-là? Et le Midrash explique tout cela. Seulement, les modernes, voilà que des mots de signification littéraire, n'arrivent plus à diagnostiquer de quoi il s'agit, alors ne comprennent pas qu'est-ce que les païens adoraient quand ils adoraient ce qu'ils adoraient. Et j'ai dit dans un des jours, je ne sais plus lequel, c'est qu'au fond, les athées modernes, on pourrait les définir de cette manière, ils sont athées parce qu'ils ne sont même pas capables d'être païens. Alors, ils sont païens de manière moderne, c'est-à-dire laïcisés, dévitalisés, sans toute la horma du paganisme. Ça ne veut pas dire que la mémoire de ces textes ne savait pas de quoi elle parlait, lorsqu'elle désignait ces mythes qui, lorsqu'ils sont encore vivants, sont des mythes dévastateurs. Et leur caractère dévastateur vient de leur caractère, si vous voulez, partiel, coupant l'unité des valeurs. Alors ils ont la force de la valeur, mais la défigure de la partialité, de la caricature de... Bon, bref, vous avez compris ce qu'il y a derrière.
C'est ce qui arrive avec la
Quand vie. Je me ressens hébreu, j'ai envie de casser des idoles. Mais ça veut dire que c'était des idoles.
C'est ce qui arrive avec la vision et l'audition. On entend qu'une partie des ondes auditives, ou plus, on voit qu'une partie des ondes lumineuses.
Si.
C'est un peu ça.
Oui, très, très analogiquement, mais si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, bien entendu.
On voit qu'une partie du prisme.
Oui, si vous voulez. Là, je vais vous donner un exemple simple sur lequel je reviens souvent, parce que le Midrash l'a choisi comme exemple fondamental. L'unité des valeurs fait que la conduite humaine doit, pour être authentique, être celle devant le Dieu un, être à la fois juste et charitable. Et c'est surhumain, parce que pendant que je suis juste, je ne suis pas charitable. Pendant que je suis charitable, je ne suis pas juste. Et pour être authentique, il faut les deux, et comment faire? Bon. Et nous avons deux oreilles. Une pour entendre la lecture de charité, une pour entendre la lecture de justice. Pour revenir un peu à ce que vous disiez autrement. Alors quand on enseigne la Torah, et qu'on n'entend que de l'oreille droite, c'est plus la Torah. Ou si on n'entend que de l'oreille gauche, c'est plus la Torah. Et c'est pourquoi vous avez un détail du rite, que pour venir écouter la Torah, il faut avoir ses deux oreilles. C'est ça que ça veut dire. Et c'est là le problème. Alors, la charité, c'est une vraie valeur. Mais quand elle est seule et exclusive, c'est dévastateur, parce que ça protège les criminels. La justice, c'est une vraie valeur, mais là, quand elle est seule et exclusive, c'est dévastateur, parce que ça accuse tous les innocents, parce qu'on n'est pas innocent dans la justice. Ça n'existe pas. Vous comprenez ? Il suffit d'ouvrir le code, et tout le monde est à l'enfer. Alors, il fait les deux à la fois. Et voilà comment il peut arriver qu'une chose véritablement divine, la charité, devienne une idole, et qu'une chose véritablement divine, la justice, devienne une idole. C'est de ça dont il s'agit. Et ces mythes-là sont dévastateurs. Je pense que c'est suffisamment clair. Alors nous avons, bien sûr, une chorma de cela, dans la Kabbalah, extrêmement détaillée, de quoi parler les païens lorsqu'ils parlaient de leur divinité. Alors surtout n'en parlez pas, parce que ces choses réelles, c'est la boîte de Pandore, refermez-la. Mais sachant qu'elle existe. Et c'est clair. Voilà, alors on a expliqué déjà le Mizrahi sans encore avoir cité le Maharal. Alors maintenant je vais vous citer le Maharal. Est-ce qu'il y a une autre question?
Dans une minute, mes questions.
Attendez, une minute. Quelle, je vous entends.
Tu parles des athées et je vais dans un
coin, je vais te
semble être évacué.
Non, non, je les situe, mais...
Parce que là, on se trouve un peu dans une perspective messianique. Le problème, c'est pas ce qui va se passer, c'est messianique.
Je crois qu'en réalité...
On voit les athées.
Oui, je crois qu'en réalité, ces athées-là, auxquels tu fais allusion, si c'est les mêmes auxquels je pense, font partie de paganisme et de chapelles et de religions très, très précises. Seulement, le vocabulaire de l'humanisme contemporain jette un voile de pudeur là-dessus. En réalité, il s'agit d'engagement idolâtre.
Des païens.
Des païens sans la richesse du folklore païen. Okay. Mais païen, je ne sais pas, idolâtre peut-être. Parce que vous avez... Non, parce que ces idolâtres-là, il peut arriver qu'ils soient très vertueux. Le païen, c'est autre chose. C'est encore pire, si tu veux. Mais...
Il y a des athées qui sont, à mon avis, pas athées, mais ils ne le savent pas.
Si vous voulez, bon, il ne faut pas faire de la récupération verbale. Par exemple, je connais des athées dont tout l'engagement culturel de leur vie, c'est d'être anti-Dieu. Bon, mais ça, c'est une religion inversée. Ils sont obsédés de Dieu à l'envers. Très souvent, j'ai envie de leur dire, mais enfin, c'est quoi, tu t'occupes.
Ils se comportent dans leur vie, pour moi, aussi bien que des religieux.
C'est autre chose, ça c'est autre chose, et ça dépend où et pourquoi, mais je pense à une espèce de puritanisme de la vie personnelle, qui est indéniable parfois. C'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas les appeler païens dans le sens habituel. Mais idolâtres, c'est autre chose, c'est-à-dire ils ont un idéal. Bon. Au fond, ils sont athées parce qu'ils reprochent à Dieu de ne pas exister. C'est de cette manière-là. Attendez une minute, je voudrais simplement vous raconter cette anecdote que je cite souvent, qui nous vient de M. Gordet. C'est qu'un jour, au temps de la Haskala, vous savez ce que c'est que la Haskala ? Après l'émancipation, il y a eu tout un bouillonnement de culture juive déjudaïsée. Et c'est un peu après l'influence des idées de l'encyclopédie, la Révolution française, sur les Juifs sortis des ghettos en Europe centrale et en Europe orientale, une espèce de fascination de l'intelligentsia style 18e siècle, enfin le siècle des Lumières, comme on l'appelait, toute petite bougie, mais enfin ça faisait de l'effet à l'époque. Et il y a un étudiant en athéisme juif qui cherchait un maître. Il a entendu dire qu'il y avait un grand philosophe athée quelque part dans un petit village de je sais pas où. Enfin, une de ces grandes juiveries qu'il y a eu au siècle dernier, en Europe centrale. Finalement, il arrive, et puis il va frapper à la maison, à l'adresse qu'on lui avait donnée. Il voit une femme juive habillée comme une femme juive le recevoir. Il dit : « Qui tu cherches ? » ?»« Je cherche monsieur Intel. » Ah, il n'est pas là. C'est ici, mais il n'est pas là. Oui, il est à la synagogue. Il commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que fait le maître en athéisme à la synagogue ? Alors, il va à la synagogue. Et à la synagogue, il voit au fond de la salle un vieux juif avec une grande barbe, une grande kippa, un grand livre, en train d'étudier la Gemara. Ah, il s'approche. « Je ne connaissais pas monsieur Intel. » Il dit : « Assieds-toi, c'est moi. » Un peu inquiet, il s'assoit. Il dit : « Qu'est-ce que tu veux ? » Il dit : « Voilà, j'ai entendu parler de vous. Et je voudrais être étudiant en athéisme juif. » Alors le juif il lui répond : « Bon, eh bien, mais d'abord dis-moi, qu'est-ce que tu sais ? Est-ce que tu as appris la Bible, le Talmud ? » Il dit : « Mais j'ai pas appris le Talmud, je suis athée. » Et alors tu n'as pas appris la Bible ? Comment j'ai appris la Bible ? Je suis athée. Alors il dit : « Mon fils, t'es pas athée, t'es ignorant, c'est encore autre chose. » Il y a toute une élucidation à faire avant de savoir de quoi il s'agit. Mais moi j'ai toujours été impressionné, disons si vous avez la limite en tant que rabbin, du problème humain que posent ces athées obsédés de Dieu à l'envers. Je ne sais pas comment vous dire. Mais si déjà tu n'y crois pas, eh bien laisse-nous tranquille avec tes histoires, vends des cacahuètes, mais non, passe leur temps à démontrer que Dieu n'existe pas. C'est un problème pour psychologue, d'accord, mais quand même c'est aussi un problème pour rabbin. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cet homme à l'envers ? Le cœur à l'envers de cet homme à l'endroit.
Est-ce que ce n'est pas l'ambivalence de l'amour et la haine ?
Il y a aussi de ça. Et alors, c'est très grave parce que des fois, cette frustration se dégage en antisémitisme aussi.
Bien sûr, l'amour et la haine.
Seulement, ils aiment Dieu là-haut, mais ils n'aiment pas les juifs en bas. Et il y a quelque chose de cet homme. Donc, peut-être que cette élucidation avait son importance et qu'il n'y a pas d'autre. Oui.
Il y a une formule qui résume assez bien ce que vous venez de dire, qui est courante, parce que généralement chez ces gens-là, il y a une profonde révolte contre l'injustice du monde. Alors leur formule est, à propos de Dieu, le salaud, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est complètement dans le bleu. Mais ma question ne portait pas là-dessus. C'est une question de médiation. Dès son départ, le christianisme a mis la sourdine, la pédale douce sur la transcendance pour se consacrer à l'image. Mais pendant tout le temps de la chrétienté, le christianisme s'est considéré comme le médiateur, la médiation entre tous les langages des païens et le Dieu qu'ils croyaient posséder. Et maintenant, ils en sont arrivés à une immanence à peu près complète, où ils en sont presque à dire « Nous n'aurons pas l'audace de dire que nous possédons, ils ne parlent pas de nom, mais enfin, le Dieu vrai, n'est-ce pas ? Chacun en possède un petit peu, etc. » Alors, face à cette évolution, quel est le concept de médiation des juifs qui pourraient considérer depuis le départ que c'est un problème de médiation, vous arriverez au vrai Dieu par la médiation d'Israël, en apprenant le Dieu d'Israël, ou en apprenant à connaître Israël et à travers lui son Dieu.
Je dirais la Torah. Et pour comprendre la Torah, il faut Israël. Et d'abord la Torah. Mais, et puis alors avec ce risque dont on a parlé un des soirs, qu'une certaine lecture sadducéenne